France Culture.
Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés.
Je suis fou de Jules Romain parce que pour moi, et pas seulement parce qu'il est encore à mon avis méconnu relativement à l'abondance de son œuvre, qui est une œuvre dans son ensemble, poème, pamphlet, roman bien sûr, théâtre, absolument unique. Il ne faudrait pas me pousser beaucoup pour me faire dire que Les Hommes de bonne volonté sont quasiment supérieurs à la comédie humaine.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Bonjour. Voilà bien un sujet de surprise et éventuellement de déploration, le destin posthume d'écrivains qui ont marqué leur temps et qui ont suscité l'adhésion d'un large public souffrent bien souvent, à quelque distance de leur disparition, d'une chute vertigineuse de leur notoriété et du nombre de ceux et celles qui les lisent ou qui les applaudissent sur la scène. Tandis que d'autres auteurs, on pense par exemple à Sacha Guitry, que nous avons évoqué récemment à ce micro, d'autres auteurs que leurs contemporains avaient considérés avec quelque condescendance, en les pensant voués à une prompte disparition, survivent brillamment. Nous allons parler ce matin de Jules Romain, qui appartient évidemment à la première catégorie, celle des déconfits de la postérité. Ses pièces de théâtre, Monsieur le Trouadec saisi par la débauche, Donogo, Knock ou Volpone, ont séduit en leur temps une vaste audience, mais on ne les joue plus guère. Les volumes de la fresque majestueuse des Hommes de bonne volonté ont connu des tirages considérables, mais ils sont très peu lus aujourd'hui par les jeunes générations. L'université ne s'attache guère à Jules Romain, et il est significatif que la dernière biographie d'importance qui lui ait été consacrée remonte à plus de 30 ans, publiée en 1993. Il est vrai que le livre dont il s'agit est heureusement d'excellente facture et nourri d'une parfaite érudition. J'ai donc convié son auteur, Olivier Rony, professeur de littérature, à venir éclairer ce matin la surprise d'un discrédit et indissolublement, bien sûr, les motifs d'un succès qui fut éclatant avant qu'il ne s'estompât pas. Un succès qui a permis à Jules Romain de jouer un rôle notable dans les débats intellectuels d'une période troublée et d'être écouté, au fil de ses multiples commentaires sur les actualités successives qu'il a connues, dans une Europe secouée de drames multiformes. Et d'abord Jean d'Ormesson, parlant de Jules Romain au moment de sa mort, en 1972.
Je voulais dire que j'avais une très très grande admiration pour Jules Romain. Je crois que c'est un des géants de nos lettres françaises, et je crois que c'était un homme qui représentait encore cette littérature puissante. Trois thèmes très importants chez Jules Romain. C'est le secret, c'est l'amitié et c'est la mystification. Le secret, l'idée de société secrète est toujours présente chez Jules Romain et lui donne cet aspect si fantastiquement excitant. Et dans tous les hommes de bonne volonté, vous voyez l'idée de la liaison mystérieuse entre les êtres et l'idée du secret. Eh bien, cette idée de secret, c'est en même temps l'idée de l'amitié, qui est un secret entre les hommes. Et je crois que la grandeur du livre des copains, dans les copains, une des clés, c'est l'amitié. Eh bien, vous voyez que cette amitié, elle est liée intimement, puisque vous vous rappelez que les copains sont en même temps un chant d'amitié et une grande farce, est liée intimement à la farce. Puisque Jules Romain était d'abord tout de même très normalien et que le canular était à cette époque-là une tradition de l'école. Et d'autre part, n'oublions pas que le mot mystification n'est pas tellement loin du mot mystique. Mystique que nous retrouvons dans le secret et que nous retrouvons dans l'amitié. Eh bien, le troisième volet, c'est la mystification, la farce. Et alors là, vous la trouvez dans Knock et dans Donogo Tonga, qui est véritablement une mystique de la mystification, puisque vous vous rappelez que Donogo n'existe pas, mais qu'à force d'y croire, on finit par le créer. Et je crois que par ce mélange d'émotions, de secrets, de mystique, d'amitié profonde et de plaisanterie, Jules Romain est au premier rang de la littérature française.
Olivier Rony, bonjour.
Bonjour.
Cette vision ternaire de Jules Romain vous convient-elle? Il faut rappeler que Jean d'Ormesson a été élu 2 ans plus tard au fauteuil de Jules Romain à l'Académie française.
Oui, oui, c'était un assez bon profil que dessine Jean d'Ormesson avec ses 3 thèmes. Il y a le secret,
l'amitié, la mystification.
Je le trouve un tout petit peu trop du côté du secret. Je trouve qu'il rajoute un petit peu. C'est vrai, mais il y a aussi une ouverture au monde extraordinaire quand même. Mais cela étant dit, mystique, amitié, tout ce que dit d'Ormesson là-dessus, ça c'est très bien.
Je vous sens très très sensible à toute critique possible.
Non, pas du tout.
Par rapport à votre personnage. Vous l'aimez beaucoup.
Oui, absolument. Mais je lui reconnais des tas de défauts. C'est un homme assez cassant, assez, je crois, un peu intimidant. Mais je trouve que c'est une œuvre somptueuse.
Alors nous allons tâcher de le démontrer. Il n'est pas seulement un romancier, un homme de théâtre, il est aussi un poète, ce qui est moins connu. Et dans un de ses poèmes, il écrit ceci. « Je suis né de petites gens, gagnant peu pour beaucoup de peine, mes aïeux ont tiré de terre plus de blé qu'ils n'ont eu de pain. »
C'est tout à fait l'enracinement de Jules Romain dans son Velay natal. Et c'est vrai qu'il a gardé, je crois, il me semble très très longtemps, cet attachement à sa famille, à son enracinement paysan, il n'y a pas de doute. Ça, c'est une chose qu'il n'a jamais renié et qu'on trouve jusque dans des œuvres de la fin de sa vie.
Son histoire personnelle est assez conforme à l'idée qu'on se fait de l'émergence des élites sous la Troisième République, la méritocratie républicaine.
Absolument. C'est parti de son père, qui était encore un petit berger, a été repéré par un prêtre qui lui a fait faire des études. Ensuite, il est devenu instituteur. Et puis, il a été, au moment de la loi, il est allé à Paris. Et il est devenu instituteur à Paris, ce qui est quand même une promotion fantastique. Et le petit Farigoule est devenu l'enfant de l'instituteur de l'école. Et c'est exactement l'histoire de ces hussards de la République, vous savez.
Hussards noirs,
c'est son père. Et lui a profité, en fait, d'abord de l'installation à Paris, qui est cette rupture avec le Velay. C'est quand même considérable. Des générations de paysans, il est le premier à avoir habité Paris.
Excellent élève, suivant la filière
absolument,
ordinaire, jusqu'à l'école normale supérieure.
Absolument, par le biais de la canne de Condorcet, qui était une canne très parisienne, hein, très élitiste. C'était une canne de gens des beaux quartiers.
L'école normale va d'ailleurs jouer un rôle très important, non seulement dans sa formation, mais aussi dans son œuvre.
Les deux principaux personnages de son roman « Les hommes de bonne volonté » sont des normaliens. L'un venant de province et l'autre venant étant parisien. Ce sont des extrapolations du personnage Louis Farigoule. C'est Jalaise et Gerfagnon.
Vous évoquez, oui, Pierre Jalaise et Jean Gerfagnon.
Et Jean Gerfagnon.
Il n'est pas mauvais de les évoquer dès le début de notre conversation.
Oui, parce qu'ils représentent bien les hypostases de Jules Romain.
C'est-à-dire?
Jalaise, c'est le parisien à l'écoute de la ville.
Le spirituel.
Le spirituel, amateur du quiétisme, un certain détachement par rapport aux événements politiques et aux événements, oui, sociaux. Et Gerfagnon, c'est un homme qui va devenir un homme politique, qui est intéressé dès l'école normale. Il travaille sur les idées politiques de Rousseau. Et il va devenir un des grands hommes du Parti radical. Mais c'est l'acteur, lui, c'est l'acteur. L'autre, c'est plutôt le penseur. Jalaise est plus méditatif. Mais il représente très bien tous les deux, Jules Romain. C'est...
spirituel et matériel.
Quand j'ai écrit cette biographie, je passais tout le temps de l'un à l'autre. Enfin, j'avais Jalès et Gerfagnon en espèce de vision perpétuelle pour expliquer Jules Romain. C'est tout de même assez étonnant.
Vous voyez dans votre Jules Romain ce double-là.
Oui, oui. Et il y a d'autres doubles chez lui d'ailleurs. Hein. Il y a l'homme extraordinairement rationnel, avec s'appuyant sur une éducation intellectuelle et littéraire et scientifique, puisqu'il a été un scientifique. Et puis à côté de ça, il y a toute une espèce, ce que disait très bien d'Ormesson, hein, c'est un côté mystique. Et à la fois mystique et en même temps soucieux de tout ce qui n'est pas rationnel dans le monde. Il y a dans Les Hommes de bonne volonté, mais dans d'autres œuvres, des passages où on s'échappe du réel. Il y a des méditations, par exemple, d'un instituteur qui s'appelle Lolerc, qui se promène deux fois sur le pont Caulaincourt et qui s'échappe du temps contemporain. Il s'échappe. Il va ailleurs. Il pense que le temps et l'espace sont différents. Il y a toute une chose chez Jules, enfin, tout un aspect de Jules Romain qui le met dans une perspective fantastique.
Qu'est-ce que ce fameux songe de la rue d'Amsterdam à l'automne 1903?
Depuis qu'il avait 12-13 ans, il était rongé par le sentiment de culpabilité religieuse. Et il prenait très au sérieux, au pied de la lettre, les commandements de l'Église. Il avait une espèce de sentiment de sérieux à l'égard de tout ce que le catéchisme avait pu lui enseigner. Il en était très malheureux. Il avait le sentiment de la culpabilité et de la faute.
Son père était en fait catholique.
Ah oui, absolument. Et sa mère, et sa mère surtout. Et donc, quand il a eu 12-13 ans, au moment de sa communion solennelle, il y a eu un moment de panique à l'idée de commettre une faute. C'est ce que dit Jalès, il le raconte très bien dans Les Hommes de bonne volonté. L'idée d'avoir désiré vaguement, une petite camarade, et allant se confesser tout de suite. Donc cette idée de la faute, ce que Jules Romain a voulu exprimer en échappant à cette idée de la faute, c'est que la religion rend malade. Et il faut se débarrasser de cette maladie. Et pour se débarrasser de cette maladie, il faut se plonger dans la ville. C'est les premiers poèmes de Jules Romain sur la ville. C'est-à-dire que la ville remplace Dieu, d'une certaine manière. Et la rue d'Amsterdam, c'est le soir où il était avec son ami Chenevière, qui s'appelait encore Débille à l'époque, et ils ont tous les deux eu l'impression que la ville leur donnait un confort formidable. D'abord, une espèce de consolation, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils étaient en contact avec la ville, c'est-à-dire les bâtiments, les voitures, les marchands des quatre saisons. L'idée qu'on faisait une sorte de groupe nouveau, mystique, qu'ils appellent un unanime. Le monde de la ville devient accueillant et devient en quelque sorte un nouvel univers.
Cet enfant qui est né à partir du Velay, du centre de la France, devient un amoureux de Paris.
De la grande ville,
En 1949, sa seconde épouse, Lise, a publié une anthologie tout à fait intéressante de tous les passages des Hommes de bonne volonté où Jules Romain évoque Paris. Paris, c'est la ville essentielle.
C'est sa ville. Jules Romain est certainement un des grands écrivains sur Paris.
Il découvre en particulier Paris... quand il entre à l'école normale, il y a un passage très fameux où Jalès et Gerfagnon montent sur les toits de l'école pour considérer la ville. Sur ce moment de l'école normale, on a un témoignage, celui de André-François Poncet, qui était un très grand diplomate de l'entre-deux-guerres, en particulier comme ambassadeur à Berlin. André-François Poncet évoque ce souvenir de camaraderie de l'époque dans le texte que je vais vous faire entendre.
J'étais en quelque sorte, enfin suivant l'argot de la maison, son conscrit. Jules Romain, à cette époque, avait déjà un sérieux imperturbable, une autorité, une sûreté de soi très frappante. Jules Romain était un excellent élève, il était philosophe, il fréquentait les cours de Durkheim. À cette époque, la sociologie n'avait pas encore pris l'énorme développement qu'elle a assumé depuis lors. Il était donc à cet égard un peu un précurseur. Il passait pour un excellent étudiant. Je pense qu'il a été reçu classique à l'agrégation. Il était en outre un artisan de canulars extrêmement fécond. Il y avait à ce moment-là un grand canular à propos d'un employé des postes qui s'appelait Coulet. Coulet était un, un brave garçon, docile, qui comprenait peut-être pas complètement ce qu'on lui faisait faire. Ce coulet, on le présentait partout. Dès qu'il y avait une vacance, dans une académie ou dans un poste, une charge, une dignité, on présentait Coulet. On le présentait aux élections et on lui faisait sa campagne électorale. Et il avait une doctrine sociale qui s'appelait le congressisme. C'était une théorie qui prétendait faire le bonheur des hommes par la multiplication des congrès. Il y avait à la base le congrès de la famille, premier congrès, et au sommet, le congrès intersidéral, dont nous nous sommes plus proches peut-être qu'à cette époque nous ne pouvions nous en douter. Et souvent, le canular commence comme une plaisanterie et finit par être une vérité qui s'impose et qui est généralement reconnue. Alors, nous faisions des réunions autour de l'école, dans le 5e, pour soutenir notre candidat. Et nous avions des succès, car Coulet obtenait 2 ou 3 000 voix. Au second tour, il se désistait noblement. Il en retirait quelques avantages pécuniaires et régulièrement de l'avancement dans l'administration des postes.
J'ai souhaité, Olivier Rony, que nous parlions du canular dans cette émission parce que ça fait partie vraiment de l'œuvre de Jules Romain qui vient souvent contrebalancer ce qu'il peut y avoir d'angoisse, d'inquiétude, vous l'évoquiez tout à l'heure. Absolument. Et qui ouvre vers le chemin d'une fantaisie qui peut être éventuellement exquise. Et on arrive au premier livre important de Jules Romain, paru avant la guerre, c'est-à-dire Les Copains.
Les Copains viennent en quelque sorte contrebalancer un petit peu cette mystique. Il aimait s'amuser et il aimait montrer peut-être que l'unanimisme, qui a un côté assez sévère, porté vers plutôt la méditation la plus secrète. C'était un philosophe tout de même, Jules Romain. Les Copains permettent c'est la soupape de sécurité, je crois, qui lui permet de souffler un peu et puis, je crois, au fond, de se moquer de lui-même un petit peu.
Cette histoire est jubilatoire, en vérité. Ces copains qui arrivent au centre de la France, du côté d'Ambert et d'Issoire, qui, disent-ils, font preuve d'insolence sur une carte de France.
Oui.
Et ce sont dans ces deux villes qu'ils développent ces 3 canulars, au moins.
Il y en a un sur l'armée, à peu près, un sur l'église.
Il y a en effet d'abord une visite impromptue du ministre de la Guerre qui réveille une caserne et demande des grandes manœuvres à l'improviste. Il y a, du côté de la théologie, un personnage majeur venu de Rome.
Soi-disant venu de Rome.
De Rome, qui prend la place du curé, ravi de l'accueillir, évidemment, et qui enchère progressivement, fait passer son propos vers une apologie de la luxure.
Absolument.
Et puis enfin, racontez-nous cela.
La statue de Vercingétorix, qui est évidemment une satire de toutes les inaugurations un peu pompeuses de la Troisième République. Et c'est Broudier qui est à poil sur le cheval représentant Vercingétorix. À la fin de son canular, il prend des pommes dans sa besace et l'envoie sur la foule. Il croque la dernière. Il a voulu, avec Les Copains, peut-être donner ses lettres de noblesse au canular normalien, mais il y a autre chose, je crois. Et là, je rejoins tout à fait d'Ormesson.
C'est-à-dire ?
Une mystique, véritablement, de l'amitié et du groupe que forment les copains. Et à la fin des copains, il y a ce discours de Bénin, qui est Jules Romain, qui dit « Vous avez créé l'acte gratuit ». L'acte gratuit qui est déjà chez Gide, hein, qui est dans la cove du Vatican, l'Afcadio. Mais là, Jules Romain, crée l'acte gratuit et surtout... Ils se sont, en faisant leur canular, ils se sont créés eux-mêmes en groupe, comme groupe. Les copains sont les ancêtres des hommes de bonne volonté. Mais sous une forme, évidemment, satirique, comique et délicieusement agressive. Enfin, c'est une farce, il n'y a pas de doute, c'est une farce. Les copains sont des hommes de bonne volonté, mais coquins. Ce sont des hommes de bonne volonté incisifs, qui se moquent de la société. Alors que les hommes de bonne volonté sont au contraire des gens sérieux. Et qui ne se moque pas de la société. Mais il y a quand même les deux aspects. Hein. Il y a le côté tout à fait mystique et des hommes de bonne volonté, et puis il y a le côté comique des copains. Mais je pense qu'au fond, la racine est la même.
Revenons à notre période, c'est-à-dire la montée des périls, l'arrivée de la guerre, cet état d'esprit que vous venez d'évoquer, celui des canulars, se heurte très violemment, évidemment, à la barbarie et au drame de la guerre. Et l'attitude de Jules Romain mérite à ce moment-là d'être considérée, c'est-à-dire un refus de la guerre. Il va s'embusquer. Il faut que nous comprenions cela.
C'était la période la plus difficile que j'ai eu à traiter dans mon livre. Il a bien fallu, effectivement, je me pose la question, pourquoi n'a-t-il pas fait la guerre? Bon. Il était officiellement, il était réformé. Après avoir fait son service militaire, il était normalement affecté dans des bureaux. Mais il aurait pu demander à être affecté sur le front. Il ne l'a pas fait. Je crois qu'il a vraiment cherché à ne pas aller combattre. Et il l'a revendiqué. Mais il n'a pas été compris par ses amis. Il n'a pas été compris par les gens qui étaient autour de lui. Il a mis beaucoup de temps à comprendre que c'était délibéré et qu'il a certainement fait jouer des relations. C'est évident, il a fait jouer des relations. Mais en même temps, quand vous regardez d'à peu près la guerre de 14 et les deux années pendant lesquelles il écrit Europe, qui est son poème pacifiste pendant la guerre, il n'est pas en bonne santé, hein. Il n'est vraiment pas en bonne santé. Il est un fait que quand vous regardez le livret militaire de Jules Romain que j'ai eu entre les mains, il est sans arrêt, à l'hôpital ou en convalescence, parce qu'il a des maladies plus ou moins récurrentes. C'est un fait. Et quand vous lisez les textes contemporains de ces périodes, c'est très curieux de voir que tous ces textes font référence à une espèce de maladie qui l'aurait rongé et qui l'aurait rendu incapable d'aller combattre. J'en sais rien, mais c'est tout à fait étrange.
En 1933 encore, il juge nécessaire de s'expliquer.
Oui, bien sûr.
Il y a un texte que
surtout au moment de Verdun.
Oui, que vous avez exhumé, un texte. Il dit « Pourquoi est-ce que je ne suis pas allé ?» Parce que dès le premier jour de cette guerre, et avant même qu'elle n'éclata, je la considérais à la fois la plus grande faute de l'Europe et son plus grand crime, et que je m'étais promis de ne pas y participer, parce que je me connaissais assez bien pour savoir que si j'allais au front, je serais aussitôt saisi par l'atmosphère du front, que je m'y battrais très bien, j'ai l'habitude de faire bien ce que je fais, et que j'y périrais presque sûrement, ce qui à mes yeux eût été absurde, car n'ayant pas une conception pessimiste de l'univers ni le goût du gaspillage, je trouve absurde de mourir pour une cause à laquelle on ne croit pas. C'est un texte vraiment curieux.
Oui, curieux, mais je suis très content que vous le citiez, parce qu'on pourrait longuement le commenter. Il dit dans le même texte qu'il a réussi à mettre des gens de la hiérarchie probablement militaire ou médicale dans sa poche. Il le dit, hein. Il dit, mais j'ai aussi été aidé par des gens qui avaient compris ma conception de mon pacifisme. Il le dit. Alors, à partir de là, on peut très bien le juger très, très, très négativement. Hein. Et Vildrac, Duhamel, dans les années 14-15, au début de la guerre, sont très, très, très hostiles à Jules Romain, il n'y a pas de doute.
Vous avez exhumé des correspondances avec Charles Vildrac et avec Georges Duhamel, qui sont en effet...
Oui, et alors ce qui est très curieux, comment se fait-il que dans les années 19-20, juste après la guerre, ces deux anciens combattants, que sont Duhamel et Vildrac, et Dieu sait qu'ils ont été combattants, ne lui en tiennent pas rigueur. C'est la période où ils sont le plus amis, pratiquement. Il n'y a pas du tout d'hostilité à ce moment-là.
C'est probablement le moment où on prend conscience de la barbarie absolue de ce qui s'est passé.
Oui, probablement. Ouais. Alors peut-être que, rétrospectivement, ils donnent raison à leurs camarades romains.
Enfin, nous n'allons pas porter du jugement en gros rétrospectif, mais nous verrons tout à l'heure que Jules Romain est un des écrivains qui a le mieux rendu compte de la guerre à laquelle il n'a pas participé.
C'est un fait.
À l'intérieur de la grande série des hommes de bonne volonté. Pour le moment, restons dans les premières années, si vous le voulez bien, Olivier Rony, restons dans les premières années qui ont suivi la Grande Guerre pour évoquer les premiers succès majeurs de Jules Romain, avec en particulier Knock.
C'est-à-dire que démarre en 1919-1920 une période qui n'était pas du tout spécialement prévisible. C'est l'intérêt pour le théâtre, qu'il aimait déjà beaucoup. Mais c'est un fait qu'il y a une dizaine d'années, là, autour de Copeau, puis de Jouvet et de Dulin, 10 ans pendant lesquels Jules Romain ne quitte pas la scène et commence par D'abord, un succès d'estime d'une œuvre poétique qui s'appelle Cromdair le Vieil, que monte Copeau.
Et puis le Troadec.
Et puis le Troadec saisi par la débauche, qui ne plaît pas à Copeau, justement, mais qui plaît à Jouvet.
Déjà une forme de demi-canular, c'est ce professeur au Collège de France qui tombe amoureux d'une gourgandine.
C'est-à-dire que. Non, d'une petite actrice, non, c'est pas une gourgandine.
Ah, vous avez raison de lui restituer son honorabilité.
Absolument, c'est une petite comédienne. C'est-à-dire que quand Donogo a été créé, que ça a été un succès extraordinaire, mais il ne s'est plus senti, le Pierre le Troadec. Et il a commencé à faire un petit peu, à jouer, à vouloir vivre un petit peu. Et il s'est amouraché d'une petite comédienne, et à Monte Carlo, il l'emmène, et il joue au casino, et il commence à gagner de l'argent, et il veut lui offrir des bijoux, etc. Et le pauvre le Troadec est saisi par la débauche et se fait avoir par des banksters qui se moquent de lui et qui, en fait, il se fait avoir par les gens autour de lui, en quelque sorte.
Je ne crois pas qu'on ait jamais joué cette pièce, sauf erreur, dans la dignité du Collège de France.
Non, je ne crois pas, non.
C'est le temps aussi de Donogo Otanka, qui est intéressant parce que ça se situe également à la limite du canular et en même temps de la rencontre entre ce qui est mystification et ce qui devient réalité. Rappelez-nous quel est le thème de Donogo Otanka.
C'est la ville qui n'existe pas et qu'on va créer de toutes pièces.
Sans savoir qu'on va la créer.
Sans savoir qu'on va la créer. Ça, et ça vient d'une erreur de Le Troadec, qui, dans sa monumentale géographie, a cité l'existence de la ville de Donogo dans un coin perdu du Brésil. Or, la ville n'existe pas. Donc, à un moment, il se trouve qu'un des copains entre en contact avec Le Troadec, qui voudrait être élu à l'Institut. Mais pour être élu à l'Institut, il vaudrait mieux que la ville existe, qu'on répare la bêtise de son édition dans laquelle il dit que Donogo n'existe pas.
Donc on y va.
Et Lamandin, qui est le copain, arrive à convaincre un banquier un peu véreux de monter une société un peu bidon et pour appâter les gogos qui vont aller tous à Donogo. Et comme ils ne trouvent pas la ville et qu'ils en ont marre de se promener dans la pampa sans trouver la ville, ils s'arrêtent à un moment et décident froidement, en plantant un poteau, que la ville de Donogo, à partir de ce moment-là, existe.
Le mythe devient réalité.
Le mythe devient réalité. Et ce que je m'étais bien amusé parce que Donogo Tonka, c'est des syllabes de Donogo. Je ne l'y fais pas. Et Tonka, je ne peux pas y aller. Cannot. Je ne sais pas si c'est ça, mais en fait, c'est amusant. En fait, je crois qu'il est parti de l'idée de la Ngoko Shanka, qui a été un des scandales de la Troisième République.
Avant 14.
Mais il y en a eu d'autres. Alors, c'est une œuvre qui est très emblématique, effectivement, de la pensée de Jules Romain.
Il faut en venir à Knock, qui va installer Jules Romain dans une notoriété nouvelle et plus forte, grâce à la rencontre, notamment, avec Louis Jouvet. Knock, qui est joué à la Comédie des Champs-Élysées, dans ce beau décor illustré par Art Déco, illustré notamment par les magnifiques peintures de Vuillard. Mais l'intrigue de Knock est fameuse. C'est ce médecin qui arrive dans un canton un peu perdu de la province profonde et qui va s'efforcer de démontrer que tout homme ou femme bien portant sont en réalité des malades qui s'ignorent.
C'est ça, c'est l'idée de créer de toutes pièces. C'est comme Donogo, finalement. Il crée la maladie, comme l'autre a créé la ville, en fait, en quelque sorte. Donc, il arrive à faire croire aux gens qu'ils sont malades ou quand ils ne sont pas malades, ils leur trouvent une maladie. Et c'est un petit peu la même démarche, en fait, en quelque sorte, de convaincre les gens d'une chose qui n'existe pas.
Knock ou le triomphe de la médecine, 1923. Écoutez cet extrait d'un film qui a été tourné après la guerre de 39-45, mais qui voit toujours Knock interprété par Louis Jouvet. Le film est de Guy Lefranc, sorti en 1951. Avec Louis Jouvet dans le rôle de Knock et Yves Degnaud dans le rôle du tambour de la ville. Vous allez vite comprendre.
Est-ce que ça serait un effet de votre bonté de me donner ma consultation maintenant?
Oui, mais dépêchons-nous, j'ai rendez-vous avec M. Bernard, l'instituteur, et avec M. le pharmacien Mousquet. Il faut que je les reçoive avant que les gens n'arrivent. De quoi souffrez-vous?
Oh, bah, attendez que je réfléchisse. Eh ben voilà. Quand j'ai dîné,
oui?
Eh ben il y a des fois que je sens comme une espèce de démangeaison ici. Ça me chatouille, ou bien plutôt, ça me gratouille.
Attention, ne confondons pas. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille?
Ah, ça me chatouille. Ben, ça me gratouille bien un peu aussi.
Oui. Désignez-moi exactement l'endroit.
Oh, par ici.
Ah, ici, oui.
Là.
Oui.
Oh, peut-être bien là.
Entre les deux, quoi.
Entre les deux. Oui. Juste entre les deux.
Oui. Est-ce que ça ne serait pas plutôt un rien à gauche? Là où je mets mon doigt.
Il me semble bien.
Oui, oui. Et ça vous fait mal quand j'enfonce mon doigt?
Aïe! Ah oui. Ah, on dirait que ça me fait mal.
Ah, ah, ah. Est-ce que ça ne vous gratouille pas davantage quand vous avez mangé de la tête de veau à la vinaigrette?
Bon, j'en mange jamais. Oh, mais il me semble bien que si j'en mangeais...
Oui, oui, oui.
Eh bien, effectivement, ça me gratouillerait plus.
Ah, très important, oui. Et quel âge avez-vous?
Ben, 51, dans mes 52.
Plus près de 51 ou 52?
Oh, plus près de 52. Ah.
Mon ami, faites votre travail aujourd'hui comme d'habitude. Ce soir, couchez-vous de bonne heure. Demain matin, gardez le lit. Je passerai vous voir. Pour vous, mes visites seront gratuites, mais ne le dites pas, n'est-ce pas? C'est une faveur.
Mais vous êtes trop bon, docteur. Oui. Alors, c'est donc grave ce que j'ai?
Ça n'est peut-être pas encore très grave. Il était temps de vous soigner. Vous fumez?
Ah non. Non, je chique.
Défense absolue de chiquer. Et vous aimez le vin?
Bon, j'en bois raisonnablement.
Plus une goutte de vin. Vous êtes marié?
Oui, docteur.
Oui, sagesse totale de ce côté-là.
Je peux manger?
Eh bien, aujourd'hui, comme vous travaillez, prenez un peu de potage. Demain, nous en viendrons à des restrictions plus sérieuses. Pour l'instant, tenez-vous-en à ce que je vous ai dit.
Croyez pas que je ferais mieux de me coucher tout de suite. Je me sens réellement pas à mon aise.
Gardez-vous en bien, gardez-vous en bien. Dans votre cas, il est mauvais d'aller se mettre au lit entre le lever et le coucher du soleil. Ah. Oui. Et attendez tranquillement jusqu'à soir.
Alors, Olivier Rony, comment le regardez-vous, ce knock? On peut le voir d'une façon simplement plaisante, comme
oui.
Comédie, mais aussi on peut avoir un regard plus sombre, une sorte
absolument.
De totalitarisme
oui,
de Knock.
Oui, non, on l'a même. Quelquefois, d'ailleurs, les critiques actuelles qui parlent de Knock font un peu se trompent. C'est quand même pas une charge contre Hitler, faut ne pas exagérer. Mais c'est une anticipation.
On est en 23.
Voilà, c'est trop tôt. Mais c'est une anticipation sur ce que peut devenir la réalité de l'époque. C'est-à-dire des meneurs d'hommes capables de faire n'importe quoi à leur peuple. Et ça, je crois que c'est une conséquence de la guerre de 14. Jules Romain, en 14, a vu qu'on pouvait faire n'importe quoi du moment qu'on arrivait à bourrer le crâne des gens. Et c'est du bourrage de crâne, ce que fait Knock, au fond, quelque part. C'est de la propagande. Il arrive à utiliser les peurs, les inquiétudes, et alors là, sur un plan, évidemment, il joue sur du velours. Knock, c'est un homme qui joue avec la peur de la mort, la peur de la maladie et de la mort. Et c'est ce qu'il y a de pire pour un homme.
Et qui la provoque en même temps.
Et qui la provoque,
puisque, par exemple, il y a cette dame en noir
oui.
qui imagine qu'elle est malade. Il décide que pendant 8 jours, elle sera au lit en ne buvant que de l'eau. Et que si elle est faible au bout de 8 jours, alors ce sera un très mauvais signe.
Voilà, pas forcément. Donc, il a toute une palette d'arguments et de manières d'intimider sa population. Et effectivement, c'est un dictateur. C'est absolument un dictateur. Et c'est très sensible dans la dernière grande tirade du troisième acte.
Donc, de fait, l'accès à la scène pour Jules Romain est fondamental dans son destin littéraire. Et c'est là qu'on retrouve l'importance de son amitié pour Louis Jouvet. Cette complicité entre eux est fondamentale.
Absolument. Elle est fondamentale. Elle a duré quand même presque 10 ans. Parce qu'on oublie que Jules Romain a écrit des pièces en un acte aussi, La Scintillante, des petites pièces que Jouvet a jouées et aimait beaucoup jouer ce théâtre, en particulier Amédée, Les Messieurs en rang, enfin plusieurs pièces.
Qu'il a d'ailleurs proposé comme levée de rideau en craignant que Knock
ne marche pas bien. Et il est resté très fidèle au théâtre de Jules Romain, en particulier grâce à Jouvet. Jules Romain a pu monter Le Dictateur, Donogo, c'est Jouvet qui l'a créé. Donc il y a eu une véritable relation très très forte. La seule chose qui a pu se passer dans les années suivantes, c'est que je crois qu'ils avaient tous les deux pas un très bon caractère et qu'ils s'engueulaient facilement. Et que je crois que Jules Romain, un petit peu à la fin de la fin de la vie de Jouvet, trouvait qu'il exploitait un petit peu trop Knock par moment, qu'il y avait peut-être presque une surenchère. Ça devenait un petit peu excessif. Il y avait chez Jules Romain l'idée que Jouvet, quelquefois, avait peut-être abusé des reprises éternel de Knock, faisant de Jules Romain uniquement l'auteur de Knock. Il était très conscient que Knock avait
était un succès fantastique pour les deux, pour tous les deux. Mais que vers la fin, dans les années 45-50, ils trouvaient que peut-être Jouvet aurait peut-être pu reprendre d'autres pièces, peut-être reprendre le Touradec, et qu'il devenait uniquement l'auteur de Knock. De même que pour le public, Jouvet n'était que Knock. Et que peut-être tous les deux en ont un petit peu souffert, très curieusement.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Je voudrais que maintenant nous en venions, Olivier Rony, à l'évocation des hommes de bonne volonté, qui est ce grand cycle majestueux avec 27 volumes qui s'étendent des deux côtés de la guerre et qui souffrent bien la comparaison avec la chronique des Pasquiers de Duhamel ou avec les Thibaud de Martin Dugard. C'est l'époque des grands romans cycles.
Oui. Mais c'est tout de même très très différent. D'abord parce que quand il a écrit Les hommes de bonne volonté, il y avait... Ces deux camarades que sont Martin Dugard et Duhamel, en tout cas en ce qui concerne Duhamel, les Pasquiers n'avaient pas commencé à apparaître, et du côté de Martin Dugard, les Thibaud ne ressemblent pas du tout aux hommes de bonne volonté. C'est un roman familial autour de deux familles que sont les Thibaud d'une part et les Fontanins, mais ça n'a rien à voir avec ce que Jules Romain a voulu faire.
Néanmoins, une œuvre magnifique, nous lui avions consacré une émission.
Ah mais Martin Dugard est un monsieur que j'aime beaucoup.
Encore en ligne, oui.
Ah non, j'aime beaucoup Martin Dugard. J'ai même pensé à une époque, je pensais faire peut-être sa biographie, voyez-vous. Donc je suis un grand admirateur de Martin Dugard.
Je vous y encourage.
Mais ça ne m'empêche pas de donner à Jules Romain et aux hommes de bonne volonté des racines tout à fait différentes, qui sont liés, je crois, à ce qu'il a voulu faire avec cet unanimisme. C'est-à-dire qu'on est présent ensemble à un moment du monde. Mais on n'est pas... Alors, si on est présent ensemble à un moment du monde, on ne peut pas avoir simplement une petite famille. Il faut qu'il y ait des gens de tous les milieux et de toutes les origines. C'est pour ça qu'il y a des hommes politiques, un criminel qui naît, des normaliens, Jalès et Gerfagnon, vous avez des affairistes, Avercamp, vous avez l'abbé Jeanne, vous avez l'abbé Mionnet, vous avez des hommes politiques réels, mélangés avec des hommes politiques fictifs, et le tout sur 25 ans de la vie française.
Avec un index des noms à la fin, tout à fait impressionnant.
Mais ce qui l'intéressait, c'est de rendre à la fois un travail, à la fois sur l'espace, c'est-à-dire la France, puis l'Europe. On a trois grands cercles concentrés. Il y a d'abord Paris dans le premier volume, et Paris qui est le décor général de l'ensemble des hommes de bonne volonté. Et on a une présentation de Paris à la fin du premier volume, puis il y a une présentation de la France à la veille de la guerre de 14, et le roman se termine par une présentation de l'Europe. Donc il y a des cercles concentriques, et ce que Jules Romain a voulu montrer, c'est comment se sont passés les 25 ans de 1908, on est à Paris, 1933, on est en Europe. Et le volume se ferme sur la présentation de l'Europe au moment où Hitler prend le pouvoir en Allemagne. Et en 25 ans, on est passé de préparation de la Première Guerre mondiale à ce qu'on envisage, c'est-à-dire la montée des périls de la Deuxième Guerre mondiale.
Je ne peux pas rêver à vous donner un extrait qui parle pour l'ensemble des hommes de bonne volonté, bien sûr. Et vous en savez l'ampleur, puisque vous les avez réédités dans la collection Bouquins, en 4 volumes, assez récemment. Mais j'ai choisi de ne pas prendre en compte un humain, mais un chien. Il y a le fameux chien Macaire, qui a beaucoup de sensibilité, et qui se promène dans Paris de la façon que vous allez voir.
Un peu après 8h du soir, le chien Macaire profita d'un mouvement qui se faisait au bout du petit corridor pour s'échapper dans l'escalier de service et descendre les étages. Arrivé devant la loge du concierge, il faillit commettre une faute qui était de gratter à la porte. La concierge serait venue lui ouvrir et lui aurait donné un morceau de sucre, mais il se rappela à temps que lors de sa dernière sortie, quelques jours plus tôt, il avait usé du même manège et qu'en effet, la concierge lui avait bien donné un morceau de sucre, mais qu'ensuite, elle l'avait fait remonter là-haut en le tirant par son collier un peu vivement. Il se glissa donc dans le vestibule et alla s'asseoir contre la grosse porte cochère. Il y avait entre le bas de la porte et le sol un espace large comme la patte. En penchant un peu la tête, Macaire reniflait aisément les odeurs qui lui arrivaient du dehors par cet intervalle. Malheureusement, il recevait aussi un courant d'air qui, par ce soir de décembre, était humide et froid. Les odeurs le déconcertaient encore un peu. La plus dépaysante était celle qui venait du sol. Bien que le bas de la porte sentît la peinture et l'urine de chien, Macaire discernait sans peine l'émanation étrange du trottoir. Elle évoquait certaines pierres sur la colline chauffée au soleil qu'il connaissait au Périgord, où il était arrivé de poursuivre des lézards. Mais le parfum de ces pierres était beaucoup plus simple. À certains moments, l'odeur de trottoir était dominée par une odeur de chaussures. Un homme approchait à pas rapide et l'on sentait considérablement ses pieds. À la campagne, les pieds marchent souvent dans des sabots, et des pieds dans des sabots sentent la sueur d'homme, le bois, l'herbe écrasée et le fumier. Même lorsqu'ils marchent dans des chaussures, on ne saurait les confondre avec ceux d'ici. L'étonnement de Macaire sur ce point était dû à la qualité spéciale des cuirs, aux teintures dont on les imprègne en cordonnerie fine, ainsi qu'à l'abondance et à la diversité du cirage. Grâce à ce travail d'esprit, l'attente lui parut courte. Quelqu'un s'arrêta devant la porte, sonna, le petit battant s'ouvrit. Frôlant la jambe du monsieur, Macaire sauta dans la rue.
Olivier Rony, l'olfactif a une grande importance dans les hommes de bonne volonté.
Oui, l'olfactif et tous les sentiments corporels d'ailleurs. Vous savez que Jérôme était très sensible parce qu'il avait l'estomac fragile et tout ce qui concerne la circulation de la nourriture dans le est toujours très bien noté par Jules Romain. Il y a notamment un homme politique, un homme qui veut être élu député, enfin Saint-Pas Poule, et qui, après avoir fait campagne, a l'estomac complètement ravagé par les alcools qu'il a bu dans différentes réunions.
Ah, ce sont les inconvénients du métier.
Mais oui, et ce petit chien Macaire prouve que Jules Romain savait se mettre à la place un peu de tous ces personnages, et il fait de Macaire un chien de bonne volonté.
Je signale que c'est une lecture de Jules Romain lui-même, diffusée à la radio le 2 avril 1951, et je salue la vaillance des éditions Frémaux qui a repris, n'est-ce pas,
oui,
cet ensemble de lectures par Romain lui-même dans une série de disques.
Et il y a 14 disques pour les 27 volumes. Il y avait à peu près 20 minutes à peu près par volume que Jules Romain avait lui-même sélectionné avec sa femme. Ils avaient fait ça ensemble. Et ils avaient fait ça très sérieusement. Et il avait chaque fois choisi les passages les plus importants avec un petit texte de liaison de façon à ce que les gens prennent connaissance de l'ensemble de ce que sont ces hommes de bonne volonté, c'est-à-dire ces 27 volumes qui s'étalent sur 25 ans de la vie de la France.
Avec forcément des messages politiques, nous allons y venir, mais auparavant, je voudrais vous donner à entendre un second extrait des hommes de bonne volonté, tout différent. Il ne s'agit plus du chien Macaire, mais il s'agit des poilus dans la bataille. C'est un extrait de Verdun, le volume 15 des hommes de bonne volonté, lu ici par Jean-Louis Barrault.
Après avoir monté longtemps au flanc d'une colline qui semblait porter un fort, ils virent, avant d'atteindre la crête, les silhouettes des hommes de la compagnie précédente se détacher sur le ciel avec des contours qui par instant devenaient très précis. Et le ciel lui-même, qui n'avait cessé de rougir davantage à mesure qu'ils approchaient de Verdun, battre par pulsations irrégulières d'un rouge plus vif qui tournait au rose, comme si des soupirs de lumière étaient venus continuellement crever au bord de l'horizon. En arrivant sur la crête, ils eurent un spectacle que beaucoup d'entre eux, en dépit de leurs 18 mois de guerre, n'avaient jamais contemplé. Une ville brûlait. Elle ne brûlait pas tout entière dans un seul souffle. 10, 20, 30 brasiers différents produisaient leurs flammes. Certains étaient petits, concentrés, ronds comme un œil. D'autres étiraient vers le haut des lanières de feu et de fumée, les secouaient dans le vent. D'autres crépitaient, lançaient des flamèches et des étincelles dans tous les sens, formaient des figures fugitives de soleil et de couronne. Tous étaient reliés entre eux par une nuée rougeâtre, rebondie, grasse, qui se retournait sur elle-même dans un mouvement continu de reptiles et que des explosions disloquaient tout à coup. Parfois, un point de cette nuée gonflait, s'ouvrait comme une fleur, et il en naissait un brasier de plus. Il était difficile de ne pas penser aux immenses feux de Bengale qu'on avait vus jadis les soirs de fête et aux fusées, aux bombes d'artifice qui les parsèment d'éclatements. Mais ce feu de Bengale-ci avait une singularité. Les fusées, au lieu de lui sortir du ventre, semblaient venir d'en haut, piquer une tête dans la nuée rouge pour éclater au beau milieu. Les hommes, tout en commençant à se laisser dégouliner le long de la descente, tout en résistant au poids de leurs sacs qui leur tiraient les épaules en arrière, tout en faisant leur possible pour accrocher leurs talons au sol à travers la boue neigeuse, regardaient brûler Verdun.
Olivier Rony, cet homme qui n'a pas fait la guerre, il en rend compte presque aussi bien ou aussi bien que Maurice Genevoix.
Il y a très peu, quand même, si vous lisez bien les deux Verdun, il y a peu de scènes de combat. Il y en a très peu. Au fond, on ne suit pas tout à fait le poilu. Moi, c'est un peu le reproche que je lui ferais, peut-être, si je peux me permettre. Quelquefois, on n'est pas, toujours assez près du combattant. Par contre, tout le reste est tout de même remarquablement fait, en particulier tout le début de Verdun, c'est-à-dire l'attaque sur quelques soldats perdus dans les bois qui se font matraquer, qui se font mitrailler par les bombards, les premiers bombardements allemands, juste le début de Verdun, c'est absolument extraordinaire. La simultanéité des chapitres et de l'écriture très très rapide, très vive de Jules Romain à ce moment-là est tout de même extraordinaire. Par contre, il manque peut-être un petit peu le poilu de base. Mais tout le reste me semble effectivement une reconstitution qui continue à satisfaire pas mal les spécialistes. En particulier, je me rappelle un universitaire qui s'appelait Maurice Rionneau, qui a beaucoup travaillé sur la guerre dans le roman contemporain et qui nous a fait une analyse de Prélude à Verdun disant que c'est effectivement assez extraordinaire. Et à son ami Cuisenier, qui est un normalien de la même génération que lui, un de ses amis intimes, il lui a fait lire les deux Verdun avant de les publier, et son ami lui dit, mais c'est prodigieux, enfin, comment as-tu fait pour réussir à rendre aussi bien nos émotions, puisque tu n'y étais pas.
Je voudrais que nous consacrions, Olivier Rony, la dernière partie de notre conversation à considérer Jules Romain comme citoyen. Il est beaucoup intervenu tout au long de sa vie, dès lors que sa notoriété donnait fort écho à ses propos, il est beaucoup intervenu dans les affaires de la cité.
Il a commencé dès les années 30, à partir du moment où il a soutenu, qu'il s'est intéressé beaucoup à la carrière d'un homme politique que tout le monde connaît bien sûr, c'est Édouard Daladier, et s'est intéressé à son ascension et au fait que Daladier a été jusqu'à devenir président du Conseil à partir des années 35-38, et puis il était un des fondateurs du Front Populaire. Mais Jules Romain s'est intéressé à partir des années 30 au radicalisme et à sa politique, cette politique d'apaisement et de recherche d'une France à la fois réformiste, qui ne soit pas plongée dans la dictature totalitaire des deux grandes, les Allemands et les Russes, enfin si vous voulez, le communisme et le fascisme. Et pendant toutes ces années 30, il a cherché effectivement à appuyer de sa notoriété la recherche d'une pacification et en même temps d'une France plus forte.
Il parle du radical socialisme de façon intéressante. Il dit ce qui m'a fait choisir le parti radical socialiste, malgré son peu de panache, c'est qu'il a de la bonne volonté et de la sagesse. Il est composé dans la troupe d'une foule de braves gens qui sont les héritiers d'une longue tradition populaire française, de ceux qui ont fondé nos libertés depuis les communes et qui les ont patiemment élargies au cours des siècles. On retrouve les hommes de bonne volonté. La formule d'ailleurs devient assez à la mode. Une des filles de Clémenceau,
oui,
qui a été infirmière sur le front juste après la fin de la Grande Guerre, publie un livre qui s'appelle « Les hommes de bonne volonté ». Martine Allaire vient de publier une histoire des filles de Clémenceau, je le signale en passant. Oui.
Et on en parle beaucoup en ce moment des hommes de bonne volonté autour des problèmes politiques actuels. Il y a un journaliste qui m'a contacté il y a quelques semaines ou quelques mois pour dire « Mais qu'est-ce que c'est que cette formule des hommes de bonne volonté ? Expliquez-moi, cher monsieur, pourquoi Jules Romain et comment Jules Romain avait utilisé cette notion de l'homme de bonne volonté qu'on entend toujours en ce moment. » Enfin, on dit « Il faudrait des hommes de bonne volonté au gouvernement et rechercher une espèce d'unanimisme. » Peut-être, là, sur le plan politique. Et je trouve que ça, c'est tout de même assez étonnant.
Eh bien, écoutez donc cet appel à la nation que lance Jules Romain à Toulouse le 30 janvier 1938. Et à l'entendre, vous pourrez peut-être juger que j'ai introduit un peu de malice compte tenu de notre climat actuel,
oui,
dans le choix de cet extrait.
Obtenir que la France cesse d'être malade, cesse de passer pour malade. Or, les signes, les symptômes qui font qu'elle passe pour malade ne sont pas longs à énumérer ni compliqués à décrire. Il y a d'abord l'instabilité gouvernementale. C'est probablement ce qui nous discrédite le plus aux yeux de l'étranger. Jamais nous ne passerons pour guéris ou même améliorés. Jamais en fait nous ne guérirons. Tant que nous aurons des gouvernements qui durent 6 mois, et qui pendant ces pauvres 6 mois n'ont à aucun moment l'esprit tranquille pour faire leur travail. Tant qu'on trouvera naturel que les couloirs du Parlement soient pleins de gens qui trament la chute du ministère une semaine après son arrivée et préparent des listes de remplaçants. Il y a ensuite les mauvaises finances, l'économie déficitaire, l'insuffisance de la production. Il y a la désunion entre Français. Et pis encore peut-être, la manie de l'indiscipline, la manie de vouloir chacun avoir raison. Vieux mal celui-là, hélas, qui remonte à la Gaule et qui nous a coûté cher au cours des siècles. Il y a un mal nouveau, plus honteux, qui, s'il se prolongeait, serait le signe d'une déchéance irrémédiable, d'une pourriture sans recours. L'influence chez nous de l'argent étranger, l'existence de partis, de factions, de centres d'agitation, d'organes de presse, que l'étranger soudoie, inspire, dirige. Tous ces maux se tiennent. Il suffirait déjà pour le moment de guérir le premier, l'instabilité gouvernementale, pour que les autres reculent. Il les commande. Une France débarrassée de l'instabilité gouvernementale passera aussitôt dans le monde pour une France en voie de guérison. Que la France cesse d'être malade, qu'elle passe pour être sur le chemin de la guérison, et à l'extérieur tout s'arrangera comme par miracle. Vous verrez, vous en avez déjà des indices.
Olivier Rony, Jules Romain est un combattant de l'Europe dans ses années 20 et 30, ce qui le conduit d'ailleurs peut-être un peu loin par rapport à une indulgence en face du nazisme.
Il a commencé dès la guerre de 14 en écrivant ce poème Europe, pacifiste, publié en 1916, à quelques centaines d'exemplaires. Et puis il n'a cessé, surtout à partir des années 30, de devenir ce espèce de piéton de l'Europe, grâce en particulier au Pen Club, qui chaque année faisait un grand congrès dans les villes de l'Europe. Et il a beaucoup, beaucoup œuvré pour une espèce de fraternité intellectuelle entre les différents pays d'Europe, à travers les Pen Clubs. Il voyage énormément, il fait des conférences. Alors, au début, c'était surtout pour aller voir les créations de ses pièces, en particulier Knock, qui s'est joué dans toute l'Europe. Et mais à ce moment-là, à chaque occasion, il prononçait des discours, en particulier à Berlin, 2 fois de suite. Il a parlé de l'amitié franco-allemande, qui a été jusqu'à quelques fois, on l'a dit, qu'il s'était compromis même dans le couple France-Allemagne en 1934.
Il va voir en particulier Otto Abetz, mais on ne peut pas savoir encore qu'il sera l'ambassadeur
absolument.
De Hitler.
Et puis
Paris.
C'est un Otto Abetz que Jules Romain décrit dans cette mystère du destin de l'Europe. C'est un francophile, sa femme est française. Il n'a rien du nazi dur et pur qu'il deviendra comme ambassadeur pendant l'occupation.
Jules Romain part pour l'exil après la défaite de la France en 1940. Se retrouve aux États-Unis, au Mexique, à Cuba.
Il part aux États-Unis persuadé que d'autres le suivraient. Il a été, je crois, étonné de voir que très peu d'intellectuels avaient décidé de s'exiler.
Oh, il y en a eu tout de même un assez bon nombre.
Oui.
Le livre d'Emmanuel Loyer sur Paris à New York est à cet égard tout à fait éclairant.
Non, mais il y en a eu beaucoup, il y en a eu quand même. Mais il attendait peut-être plus des écrivains de son calibre. Il aurait bien vu Duhamel ou Gide aussi continuer à venir en Amérique. Il a été étonné d'être un peu aussi seul. Cela étant dit, il était très privilégié parce que les hommes de bonne volonté avaient connu un succès considérable aux États-Unis en particulier.
Comment est-ce qu'on dit en anglais les hommes de bonne volonté?
Men of Goodwill. Et ça a très très bien marché. C'était édité par Knopf. Et dans les années 37-38, l'édition américaine paraissait pratiquement simultanément aux États-Unis et en France.
Il revient après la victoire et il est élu à l'Académie française.
À la demande de De Gaulle.
Il s'agissait de remplacer un certain nombre d'académiciens qui n'avaient pas une attitude pendant l'occupation digne de tous les éloges.
En particulier Abel Hermant et Abel Bonnard. Et il a été élu au fauteuil d'Abel Bonnard, ce qui lui a permis d'ailleurs de ne pas faire l'éloge d'Abel Bonnard et de faire un très joli discours à l'Académie, un des plus jolis textes. À mon avis, Jules Romain. Beaucoup de personnes l'ont dit, si Jules Romain était mort en 45 ou 46 après son discours à l'Académie, il aurait un succès fou.
Alors que les dernières années de son intervention, des interventions civiques, laissent parfois plus décontenancé.
C'est vrai, je le reconnais. Le Jules Romain de l'Aurore, des années 50, 60, s'il y a encore quelques beaux textes, c'est vrai, c'est un homme aigri, volontiers amer, même quelquefois un petit peu masochiste, enfin se complaisant quelquefois dans l'amertume.
L'Aurore, c'est le journal de
Robert Lazuric,
oui,
et de Boussac.
Et de Marcel Boussac, oui, qui est en fait un anti-gaullisme de droite.
Voilà.
J'ai retrouvé une lettre de Charles de Gaulle à Jules Romain, qui date de juillet 1960. Il a déjà pris des positions très marquées
Oui, ils ne sont pas encore complètement hostiles l'un envers l'autre.
Oui, enfin, l'Algérie française, mais il se passe déjà quelque chose, puisque de Gaulle a cette ironie à son égard. C'est pour le remercier d'un livre. Il dit « Il est de fait que nous avons failli à quelques reprises perdre la liberté ». Il s'agit notamment des tumultes de l'Algérie, du côté de l'Algérie, et des risques d'arrivée des militaires en France. « Nous avons failli à quelques reprises perdre la liberté et qu'aujourd'hui encore, elle tient, la liberté, à assez peu de choses ». Et il ajoute « C'est donc avec curiosité que je vois certains de ceux qui l'aiment s'appliquer à scier un peu la branche sur laquelle elle est assise ». Vacherie distinguée.
Vacherie, oui, absolument. Il aurait voulu que Jules Romain se range à ses côtés, c'est certain. Je pense que de Gaulle a été un peu amer de voir que Jules Romain ne le suivait pas.
En tout cas, il a probablement regretté. Il attachait beaucoup d'importance au soutien des hommes de lettres.
Je pense qu'il admirait certainement l'œuvre de Jules Romain. Il a certainement été un petit peu choqué, déçu de voir que Jules Romain ne l'approuvait pas du tout dans sa politique algérienne, et surtout aussi dans sa politique vis-à-vis des États-Unis, parce que Jules Romain était quand même très, très... Il était très atlantiste.
Olivier Rony, je suis heureux que vous ayez restitué la personnalité de Jules Romain. Pensez-vous qu'elle peut ressurgir dans la curiosité des générations qui suivent? Et si c'est le cas, avec quel ressort?
Il est très dommage, effectivement, qu'on ne joue plus, ou qu'on joue peu, le théâtre de Jules Romain, en particulier Donogo et même Knock, le public croit que parce qu'il y a 27 volumes, c'est illisible.
C'est intimidant.
Eh oui. Alors, en fait, je suis frappé chaque fois que je parle, ce qui m'arrive quand même quelquefois de parler avec des lecteurs des Hommes de bonne volonté, les lecteurs sont frappés par la vivacité, la rapidité avec laquelle on peut lire les Hommes de bonne volonté. C'est pas du tout pesant. Chaque volume n'est pas lourd, c'est moins pesant qu'un Zola ou que certains volumes des écrivains contemporains. Ça se lit facilement, les Hommes de bonne volonté. Et j'ai été frappé plusieurs fois par des gens qui m'ont dit « Mais oui, j'ai lu ça dans l'été, les 27 volumes comme ça, hop, les uns à la suite des autres. » Parce qu'il y a une espèce d'envie de voir comment les choses vont tourner. Je crois que Jules Romain n'est pas du tout pesant.
C'est un beau plaidoyer final. Cet après-midi, on va voir des longues files d'attente dans les librairies pour venir acheter les éditions récentes, dont celle à laquelle vous avez pourvu, des Hommes de bonne volonté. Votre livre, Olivier Rony, s'appelait « Jules Romain ou l'appel au monde ». Il était paru en 1993 chez Robert Laffont. Vous aviez obtenu le grand prix de la critique de l'Académie française. Il faut absolument rééditer ce livre.
Merci. Je vais y penser. Je vais y penser.
Vous allez convaincre votre éditeur, Robert Laffont. Je signale aussi que vous avez publié tout récemment, dans la collection Folio, directement en poche, une biographie de Louis Jouvet, dont nous avons vu au fil de notre conversation quelle place il a eue dans le destin littéraire et théâtral de votre cher Jules Romain. Et puis, je le disais en passant, vous avez réédité Les Hommes de bonne volonté en 4 volumes chez Bouquin, la belle collection Bouquin, également chez Robert Laffont en 2003. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète, quelque rare que soient les écrits aujourd'hui sur Jules Romain, en dehors du vôtre, ils sont de qualité et ils sont référencés en ligne avec les documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Vincent Abouchard, avec Corentin Bailly à la prise de son, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et Delphine Desbiens pour les archives de l'Institut national de l'audiovisuel.